seul qui peut me justifier, c'est le Fils mandaté par le Père. Mais c'est libérateur, hein. C'est libérateur. J'ai à avoir les yeux fixés sur lui et me laisser juger par lui. Me laisser découvrir le Fils par le Père. C'est extraordinaire. Mettez le cap sur la vérité, regardez le Fils, et laissez-vous juger par le Père. Il découvrira bien que. Il découvrira bien en vous l'image de son Fils. Je traduis librement, par mes termes à moi, ce n'est pas mes termes qui sont importants. C'est, je pense ce que dit le texte, mais il me semble qu'il va dans ce sens-là.
Si tu le dis, on te croit.
Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous sommes descendants d'Abraham, nous avons donc notre carte, hein, nous n'avons été pas publiés. Hein. Comment toi dis-tu, vous arrivez libre? Tout qui fait le péché, serviteur est Jésus. Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils demeure. Donc si je m'aligne sur le Fils, si je me laisse devenir Fils de plus en plus, je suis dans la maison. Je n'ai pas me demander tout le temps si je suis à l'extérieur. Le fameux exemple de Peggy. Je suis entré quelque part, je me suis essuyé les pieds sur le paillasson, et une fois que je suis entré, je ne regarde pas tout le temps mes pieds pour savoir si mes pieds sont encore sales, puisque je me suis essuyé les pieds sur le paillasson. Est-ce que j'accepte vraiment tout bonnement d'être enfant de Dieu? Et donc d'être sauvé. Puisque être sauvé, c'est d'être enfant. Lui répondit, mais notre père, c'est Abraham. Eh bien, si vous étiez enfant d'Abraham, vous iriez vers la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous jugez les autres, vous jugez vous-même, vous évaluez, qu'est-ce que vous faites pour donner la mort? Alors vous n'êtes pas enfant d'Abraham. Parce que Abraham a été tiré de la mort pour aller vers la vie. Ceci Abraham ne fit pas, il n'en pas la mort. Vous, vous faites des œuvres de votre père. Mais nous ne sommes pas des gens qui ont été enfantés dans l'inconduite ou dans la fornication. Nous avons un seul père, un produit. Hein? Il fait comme si nous avions deux pères, Abraham d'un côté et puis le diable. Nous n'en avons pas deux. Donc vous n'êtes pas de véritable fils d'Abraham. Vous ne serez de véritable fils d'Abraham que si vous acceptez d'être fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il allait mettre au monde Jésus avec elle. Vous n'avez pas remarqué. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi de Dieu je sortis et je suis venu. Non plus à partir de moi je suis venu, mais celui-ci m'envoya. Je suis mandaté. Être mandaté, c'est être fils. C'est ne pas agir en son propre nom, mais faire exactement tout ce qui m'a été demandé. Donc c'est m'engager dans mon mandat.
Donc il faut se
juger.
Se laisser juger. Non, pour savoir si je veux ou non.
Ah, pour savoir si je veux. Laissons donc cela, le savoir si je veux. Faisons-le et laissons-lui le soin de nous évaluer. Pourquoi devons-nous nous mettre 16 sur 20 19 sur 20. Savoir. Faisons-le. Mais c'est exactement ça, hein. Tu poses très bien la question.
Et même si elle le pose, alors tu reviens tout voir.
Savoir si. Nous voulons savoir si. Nous sommes dans la bonne voie. Je dis ça, oui. Dis ce que je dis. Regardez le Christ et se laisser sauver. Et nous n'aurons jamais fini de regarder le Christ. Mais si je regarde le Christ au lieu de me regarder, je suis encouragé. Si je me regarde, je suis découragé. Parce que si je me regarde, je vois tout le chemin que je n'ai pas fait. Si je le regarde, je vois tout le chemin qu'il y a à faire. C'est la même chose, vous direz. la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que l'un me fixe sur moi et me culpabilise, et l'autre me fixe sur lui et me dynamise. Et c'est exactement cela que Jésus nous met en évidence.
Tu crois que pour réaliser, on est dans la ligne.
Oui.
On ne doit pas se regarder.
On ne doit en tout cas pas se demander tout le temps si je suis dans la ligne. De temps en temps, mais pas trop. Nous avons pour père l'Abraham. Donc nous sommes dans la bonne voie. Nous avons pour père le menteur. Et quand Jésus me dévoile que je suis menteur, il me dit la vérité qui est en moi.
Donc je sais quoi.
Il me la donne. Et c'est quelque chose de très difficile à bien percevoir, mais c'est essentiel à l'avancement spirituel. Il faut faire route, comme tu dis. Faire route et désormais ne pêche plus. Pour ne plus pêcher, il faut savoir qu'on est fils du mensonge. Oui, bien lui.
Jésus n'est fatigué d'avoir beaucoup avancé.
Et il ne faut pas se demander de combien on avance. Mais le parce que ça aussi, nous récupérons tout le temps notre propre évaluation. Et notre évaluation, nous la mesurons tout le temps à notre propre regard, ou bien au regard des autres, évalué à notre propre regard. Et c'est justement ça que Jésus est en train de discréditer. Ce processus qui est, comment dirais-je, qui est encore exacerbé par une certaine psychologie. Ou un volontarisme, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est dans cette dimension. Or, Jésus dit précisément qu'on est, la vérité vous rendra libre. Et il nous dit donc, vous du Père le diable vous êtes, et les désirs de votre Père vous voulez faire, et qu'est-ce que le diable fait? Mais il veut faire mourir. Il ment à Adam et Ève pour le faire mourir. Vous voyez que nous avons eu Moïse, nous avons eu Abraham, et maintenant nous avons Adam et Ève. On remonte à la réalité profonde de l'homme. Celui-ci, celui-là, donc le diable, était homicide à partir du commencement. Et il ne s'est jamais tenu debout dans la vérité. Il a commencé par falsifier ce que Dieu avait dit.
Ah, Dieu ne nous a pas permis de manger de tous les arbres, monsieur Jean-Paul.
Non, c'est pas ce que Dieu avait dit. Vous pouvez manger de tous les arbres, à l'exception d'un seul. Et le diable dit, vous ne pouvez pas manger de tous. On peut manger de tous, sauf un. On tourne la vérité, vous voyez. À sa mesure, ce diable, c'est ce que nous sommes quand nous tournons la vérité vers nous. Mais c'est terriblement difficile de s'abandonner totalement au verdict de Dieu. Parce qu'on voudrait s'assurer du salut. Alors, le salut, c'est justement ce dont nous ne sommes jamais assurés. Le salut, c'est ce qui nous est donné de façon absolument gratuite. Alors, je ne peux pas m'assurer, puisque c'est une gratuité. Je voudrais toujours redire, oui, mais est-ce que? Non, pas est-ce que. Et c'est ça que Paul a en vue quand il dit que je suis juste, non pas de la justice de la loi, j'ai bien observé la loi, donc tu vas me donner la récompense. Mais non, Paul, c'est pas, ça ne va pas, mais de la justice de la foi. C'est-à-dire de mon adhésion à Jésus. C'est lui qui me rend. Et je ne sais pas si je suis juste.
Mais je suis rassuré par les autres.
Oui, par exemple. Assuré ou rassuré.
Rassuré.
Mais les deux. Je suis assuré et je suis rassuré par les autres. Mais les autres me rassurent.
Pardon?
Nous avons
l'assurance du salut par
la mort de Dieu. Pas par les autres.
Donc le seul geste que nous avons à faire, c'est de nous ouvrir à lui. C'est ce qu'il dit. C'était vraiment fils. Or, nous voudrions mettre la main sur cette assurance. je suis assuré d'être sauvé par la mort de Dieu. Non, je suis librement sauvé par Dieu. Et il y a deux manières de voir l'assurance. Il y a moyen d'avoir l'assurance, de voir l'assurance comme une sécurité qu'on se donne ou même qu'on reçoit. Et il y a une assurance qui est, mais je lui fais confiance. Cette assurance-là, on ne parle pas. C'est ça être fils. C'est faire confiance. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Qui d'entre vous me convaincra du péché, si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas à moi? Celui qui est de Dieu, les paroles vraiment de Dieu, il entend. Et si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. C'est clair. Il répondit à lui, parce qu'il ne veut pas finir. Il tient, hein.
C'est comme Régine.
Voilà un jugement qui est parallèle au jugement de Jésus, mais c'est le jugement des Juifs cette fois-ci. Ça se termine par un nouveau jugement. C'est 47 jusqu'au verset 53, si vous voulez. Non, 59. 48, pardon. 48 à 59. Je termine, même si c'est pas revenu. Il répondit à les Juifs et lui. Maintenant, nous sommes des Juifs, c'est pas c'est même plus ceux qui avaient cru. C'est beaucoup plus large que ça, les Juifs. Ne disons-nous pas bien, nous, que Samaritain, tu es toi, et qu'un démon, tu es. Tu viens nous faire une leçon qui ressemble tellement à la dissidence, c'est des hétérodoxies, ton machin, hein. Du protestantisme de bout à l'autre. Donc, tu es samaritain, tu as un démon. Une autre manière de dire, tu es né de la prostitution, donc de la fornication. Il répondit Jésus, moi de démon, je n'ai pas. Mais j'honore mon père. Et vous pouvez honorer. Bon, donc, ton père et ta mère, hein, vous n'oubliez pas que c'était le commandement des parents. Moi, j'honore mon père. Et vous me déshonorez. Vous n'honorez pas mon père qui est le vôtre. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Mais je ne parle pas. Bien vu, pas. Il est celui qui la cherche et celui qui lui le père. Amen, amen, je vous dis. Si éventuellement quelqu'un garde ma parole, la mort, il n'observera pas vers l'éternité. Il ne verra jamais la mort. Il avait dit ça. Pour ceux qui devaient prendre son corps et son sang. Si éventuellement quelqu'un garde ma parole, c'est-à-dire se fie à ma parole, la mort il n'aura pas. Au contraire, il aura la vie. Ils lui diront que les Juifs, maintenant, nous avons connu qu'un démon du mal. On renvoie la balle. Vous êtes des enfants du diable, toi tu as un démon. Abraham mourut, et les prophètes. Et toi, tu dis, si éventuellement quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort vers l'éternité. Aussi, il était plus fort que ceux qui sont venus avant. Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham?
Que Jacob nous a donné son
fils. C'est ça. Lequel mourut? Les prophètes mourut. Que te fais-tu toi-même? Et voyez, ici, nous avons vraiment un procès. Jésus est sommé de répondre. C'est devant les Juifs. Donc le procès est déjà, en quelque sorte, tout entier fait avant la passion de Jésus, pour Saint-Jean. Il répondit, Jésus, si éventuellement je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Je me vante, c'est un peu la même chose. Si je me glorifie moi-même, c'est de mes faiblesses que je me glorifie, et que je me glorifierai. C'est pas ma force. C'est mon Père qui me glorifie. Donc je me remets vraiment entre les mains du Père. Que vous dites, il est notre Dieu. On voudrait s'entendre. Parce qu'on a le même Dieu, d'abord. Et vous ne l'avez pas connu. Or, moi, je le sais. Saint-Jean fait toujours une différence entre connaître et savoir. Connaître, c'est connaître par une expérience progressive.
Donc, connaître Dieu, c'est arriver à une perception, une expérience de plus en plus profonde de ce qu'il est, et donc des rapports de plus en plus profonds avec lui. Tandis que savoir, c'est une connaissance comme intuitive. Savoir, c'est d'avoir la perception immédiate, en fait. Il n'y a pas cette progression du connaître. Et on a remarqué, ça c'est surtout le père de la poterie qui a mis cela en évidence, qui a fait un gros article très important sur ces deux verbes chez Saint Jean. Et le père de la poterie m'a toujours dit que Saint Jean n'emploie jamais de synonyme. Il n'emploie jamais des mots différents pour dire la même chose. Quand il emploie deux mots différents, il dit deux choses différentes. Parfois avec une petite nuance, mais venir de Dieu ou venir d'auprès de Dieu, c'est pas pareil. Apo, c'est où ? Bien para. Pas du tout la même chose. Venir de Dieu, c'est montrer que je viens de l'origine. Venir d'auprès, c'est me manifester qu'il y a une intimité avec Dieu et que cette intimité m'est transmise. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Que vous vous dites, il est notre Dieu. Vous ne l'avez pas connu. Or, moi, je le sais. Et si éventuellement je dis que je ne le sais pas, je serai semblable à vous, menteur. Mais je le sais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, tressaillit dans l'allégresse afin qu'il voie le jour le mien. Vous voyez, il disait à qui l'allait avec les Abraham. Et il le vit, et il se réjouit. Ils dirent donc les Juifs à son adresse, 50 années et tu n'as pas encore. Et Abraham, tu as vu? Après, 1850 ans, pour venir. Il leur dit Jésus, amen, amen, je vous dis, avant qu'Abraham devint, ou avant qu'Abraham arrive, moi, ils enlevèrent donc des pierres afin qu'ils les jettent sur lui. Alors Jésus se cacha et sortit du temple. Oui, c'est lui qui veut être.
Il a acheté des pierres dans le temple.
Oui. Normalement, non, on fait conduire en dehors de la ville. On ne tient pas l'habitude dans le temple. C'est absolument pas de la terre. Il ne dit pas d'ailleurs, hein, mais il est sorti du temple, Jésus se cacha et sorti du temple. On ne dit pas que les choses se font chronologiquement. Mais vous voyez qu'il a pris la place de la femme. Vous voyez que ce n'est pas pour rien qu'on a mis le texte de la femme adultère à cet endroit-là. Et vous voyez que Jésus est aussi accusé d'adultère, en fait.
D'une autre sorte.
Ah, d'une autre sorte. Oui, mais il y a une image, et puis... Et vous voyez, derrière tout cela, bon, il faudrait évidemment beaucoup de temps et une étude minutieuse, presque mot par mot, pour essayer de voir la progression du discours de Jésus, qui n'est, comme je vous dis, pas très facile, et qui fait allusion à beaucoup de choses que les rabbins eux-mêmes perdent leur latin, si je dis, leur hébreu. Mais je crois qu'il y a quelque chose pour nous d'important. Il y a une révélation qui nous est faite de ce que j'appellerais notre ambiguïté foncière. Ou bien appelons ça notre mauvaise foi. Ou bien appelons cela nos doutes au sujet de la foi. Nos incertitudes, nos insécurités. Et il y a un dévoilement de ce que je vous disais tout à l'heure, de notre désir d'être sécurisé, de savoir que nous sommes dans le vrai. Et finalement, de mettre la main sur notre propre salut. Alors que notre seule assurance, c'est de voir la trajectoire de Jésus dans notre monde. Ou bien c'est le summum de l'amour, et c'est tellement extraordinaire comme amour que nous ne pouvons pas y échapper et que nous pouvons nous laisser entrer dans ce grand cyclone de l'amour, si je puis ainsi m'exprimer. Ou bien alors tout ça est pure fantasmagorie. Et alors nous butons à notre propre mort. Et au fond, ce qu'il nous décrit à travers ce texte, c'est notre capacité de liberté. Nous sommes capables de recevoir notre salut et nous sommes capables de nous enfermer dans la mort. Si je me regarde, si je m'évalue, si je me juge, je m'enferme dans la mort. Si je me laisse aimer, si je me laisse porter dans la vérité, si je regarde comment Jésus est le Fils du Père, je suis entraîné dans ce sillage de la vie du Père. Je suis dans la vérité et la vérité me libère. Mais la chose qui nous est la plus difficile à réaliser, c'est d'être libre. On a peur d'être libre. Parce que vous voyez, la liberté, la véritable liberté, n'est pas du tout de l'ordre de la sécurité. La vérité, la liberté, la vraie liberté, nous rend extrêmement vulnérables. Est-ce que j'ai bien fait? Je crois avoir bien fait. Je n'en suis pas certain. Ah, tu n'as pas bien fait. Ah, c'est le démon. Ah, tu n'as pas bien fait. Il essaie de me culpabiliser parce que je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je m'en remets à celui devant lequel je me trouve finalement tout seul comme la femme. Toi, les autres ne t'ont pas condamné. À cause de la parole que tu leur as dite, hein, attention. Sinon, ils me condamnaient. Et voyez comment Jésus disculpe. Il ne disculpe pas en disant, en minimisant la faute ou en la banalisant. Ça, c'est la mauvaise manière de disculper. Oh, je suis surcontent. Tu n'étais pas vraiment responsable. Ça, c'est vraiment la mauvaise manière de disculper. J'étais responsable dans la mesure où je pouvais être responsable et je ne peux pas mesurer cette mesure. Donc, puisque je suis responsable de mon péché, je suis responsable de me laisser sauver. Heureusement, hein? C'est la seule manière d'entrer en mon salut. Me laisser sauver. Accepter d'être par grâce enfant du Père. C'est merveilleux. Parce que c'est vraiment entrer dans la gratuité totale.
Qu'est-ce qui se passe alors pour les juifs qui ne reconnaissent pas
les juifs? Ah, ça.
Qu'est-ce qui se passe pour les musulmans aussi?
Demandons ça au Seigneur. Mais je n'ai pas jugé précisément ce qui se passe pour
nous. Mais non, on peut se le demander.
Le discours, je vous disais, il faut attacher ses ceintures. Il ne faut pas sentir si il ne comprend pas tout. Mais moi, je ne comprends pas. J'essaie de voir de quoi ça parle. Il ne fallait pas comprendre, c'est un sens. Il fallait se laisser comprendre par lui. Allô?
Régime
de bien chrétien. Moi je dirais la vérité sur le lavoué des enfants. Et passant tout près, il vit un homme aveugle depuis son arrivée au monde. Et il interrogea
ses disciples,
disant, Rabbi, qui pécha, celui-ci ou ses parents? La question est bien posée. Afin qu'aveugle, il fût engendré. Vous voyez la question. La question, c'est le rapport de dépendance qu'il peut y avoir entre le péché et la souffrance. Est-ce que, comme le dit la Bible, la souffrance, la maladie, est une punition du péché, un châtiment? Alors, si la souffrance est un châtiment du péché, alors on comprend bien que quelqu'un qui à un certain moment de sa vie pêche et qu'il soit puni par l'envoi d'une souffrance. On peut bien comprendre. Mais quelqu'un qui naît après, alors c'est les péchés de qui qu'il paye? Ou bien ses parents? Ou bien alors, ça c'était déjà un petit peu des rabbins un peu contournés là, hein, qui disaient non, il est puni par anticipation. Oui, c'est tordu, hein, comme raisonnement. Alors, comme il savait bien, les disciples, qu'on raisonnait de 36 manières, ils demandent à Jésus, eux aussi, mais qu'est-ce que tu en penses? Comme les pharisiens avaient demandé à Jésus, qu'est-ce que tu penses de la loi là? Rabbi, qui pécha? Celui-ci ou ses parents, afin qu'aveugle il fût engendré? Ou bien, il a payé les péchés, les fautes de ses parents, s'il a le sida, ça vient d'où? Ou bien, est-ce que c'est en prévision de sa vie que Dieu l'a déjà châtié au début? Quelque chose qui ne va pas. Il répondit Jésus, ni celui-ci, ni ses parents. Autrement dit, fausse question. À côté de la plaque, disons. Mais c'est afin que fussent manifestées les œuvres de Dieu en lui. Il pose la question du pourquoi en un mot, et Jésus pose la question du pourquoi en deux mots. Quelle est la cause? Et Jésus répond, quel est le but? Quel est le sens, dans la double signification du terme, quel est le sens de la souffrance? La direction et la signification. Mais c'est afin que fussent manifestées les œuvres de Dieu en lui. Éventuellement dans le monde, je suis lumière, je suis du monde.
Je suis la lumière du monde. Alors, ça vient ici.
Ayant dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue du crachat, et il fit une onction de la boue sur les yeux, et il lui dit, pars te laver vers la piscine de Siloé, qui est interprété, envoyé, qui traduit le mot Shiloah, comme signifiant envoyé. Il s'éloigna donc, et se lava, et il peint, regardant. Les voisins donc, et ceux qui observaient auparavant qu'il était mendiant, disaient, n'est-il pas celui-ci, celui qui était assis et qui mendiait? D'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, non pas, mais il est semblable à lui. Lui ressemble. Celui-là disait, moi je suis. Vous avez entendu? Moi je suis. Exactement ce que Jésus dit. Dieu dit, moi je suis.
disait donc.
Comment donc?
Lui disait donc.
Comment donc? Ont-ils été ouverts les yeux?
Il répondit celui-là. L'homme qui a dit Jésus fit de la boue, il fit une onction sur les yeux, et il me dit, pars vers le Siloé et lave-toi. M'étant donc éloigné, m'étant lavé, je vis à nouveau. Et il lui dit, où est-il celui-là? Il dit, je ne sais pas. Il le mène auprès des pharisiens,
l'aveugle d'alors.
C'est avec celui qui avait été aveuglé. Or, c'était sabbat, dans le jour où il fit de la boue.
Fais pas du mortier.
Le jour du sabbat, non, samedi, je travaille pas. Et ouvrit les yeux. De nouveau donc, il lui demandait aussi les pharisiens, comment il vit à nouveau. Alors il leur dit, de la boue, il m'imposa sur les yeux, et je me lavais, et je regarde. Il disait donc, certains d'entre les pharisiens,
certains.
Il n'est pas celui-ci de chez Dieu, l'homme, parce que le sabbat, il ne le garde pas. D'autres disaient, comment peut-il, un homme pécheur, faire de tels signes? Et un schisme était en eux. Jésus opère une division, il ne veut pas, mais il s'opère une division. Important de voir le schisme que nous avons vu tout à l'heure et qui se poursuit à travers le témoignage de l'homme aveugle guéri. Ils disent donc à l'aveugle de nouveau, toi, que dis-tu à son sujet? Parce qu'il ouvrit tes yeux. Or il dit, prophète. Ils ne crurent donc pas les Juifs à son sujet, qu'il était aveugle et qu'il est vu à nouveau. On dirait qu'ils ne veulent pas voir l'évidence. Hein, c'est comme ça que le texte fonctionne. Jusqu'à ce qu'ils interpellent les parents de celui qui a vu à nouveau. Et ils lui demandaient, disant, celui-ci est-il votre fils, dont vous dites qu'aveugle il fut engendré? Comment donc regarde-t-il à présent? Ils répondirent donc ses parents et ils dirent, nous savons que celui-ci est notre fils, et qu'aveugle il fut engendré. Or, comment maintenant il regarde? Nous ne savons pas. Ou qui ouvrit ses yeux? Nous ne savons pas. Demandez-le lui, il a l'âge. Il parlera au sujet de lui-même. Cela, ils le dirent, ses parents, parce qu'ils craignaient les Juifs. Nous voyons ici la crainte des Juifs. Car déjà les Juifs s'étaient entendus afin que si, éventuellement, quelqu'un le confessait comme Christ, il soit exclu de la synagogue, il soit excommunié, nous dirions aujourd'hui. En raison de ceci, ses parents dirent, il a l'âge, lui questionnez-le. Ils interpellèrent donc l'homme une deuxième fois. Celui qui était aveugle, hein, qui avait été là. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. C'est une manière de faire prêter un serment. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répond donc, celui-là, s'il est pécheur, je ne sais pas. Une seule chose je sais. Étant aveugle, à présent je regarde. Il a fait une expérience. Il ne peut pas l'admirer. Il lui dit donc, que te fit-il? Comment ouvrit-il tes yeux? Ils ont répondu, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu. Pourquoi de nouveau voulez-vous entendre? Est-ce que vous aussi vous voulez arriver ces disciples? Devenir ces disciples. Alors il injuriait, et il lui dit, toi, tu es disciple de celui-là. Or nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons qu'à Moïse y a parlé. Pour celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Il répondit l'homme et il leur dit, certes, en ceci est étonnant, que vous ne savez pas d'où il est. Et il a ouvert les yeux. Nous savons que des pécheurs, Dieu ne les entend pas. Mais si éventuellement quelqu'un est vénérant Dieu, et fait sa volonté, celui-là, il l'entend.
De l'éternité, on n'a pas entendu que quelqu'un ouvrit les yeux d'un homme se trouvant dans un vrai aveugle.
S'il n'était pas celui-ci de chez Dieu, il ne pourrait faire rien. Belle petite leçon de catéchisme. Il répondit et lui dit, empêché, toi tu fus engendré tout entier.
Et toi tu nous enseignes?
Et ils le jetèrent dehors, au dehors. Il entendit Jésus qu'il l'avait jeté dehors, au dehors. Et l'ayant trouvé, il lui dit, toi, crois-tu vers un fils de l'homme? Il répondit celui-là et il dit, et qui es-tu, Seigneur, afin que je croie vers lui? Il lui dit, Jésus, et tu l'as vu. Et celui qui parle avec toi, c'est celui-là, comme à la Samaritaine. Alors celui-ci déclara, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et il dit, Jésus, vers une sentence de jugement, moi, dans ce monde, je suis venu. Je suis venu pour opérer, pour exprimer une sentence de jugement. Afin que ceux qui ne regardent pas, regardent. Et que ceux qui regardent, arrivent aveugles, ou deviennent aveugles. Ils entendirent cela entre les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, et ils lui dirent, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Il leur dit, Jésus, si vous étiez aveugle, vous n'auriez éventuellement pas de péché. Or maintenant, vous, nous regardons, votre péché demeure. Le péché, c'est de croire qu'on sait. Après, ce texte est merveilleusement composé. Je ne sais pas si vous remarquez, on part d'abord quelques petites paroles de Jésus à la suite de la question des disciples, et puis là, vous voyez, le témoignage en cascade. Et tout le temps, l'homme est interpellé, et finalement, vous voyez que l'homme entre de plus en plus dans son témoignage. Il le prend de plus en plus en charge. C'est une responsabilisation de plus en plus grande. Et sur le fond, chapitre 8, vous voyez maintenant, en acte, ce que ça signifie croire. Croire, c'est être mené toujours plus loin, dans son abandon, à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Vous voyez que Jésus ne s'est pas révélé au départ. L'homme ne sait pas qui il est, mais il a fait une expérience. Et pour lui, cette expérience est absolument essentielle, pour comprendre. Parce que, ne voyant pas, il voit pour la première fois. Et alors, ça se termine par une petite leçon sur la lumière et les ténèbres. En fait, ce chapitre 9 est, nous le verrons demain, le premier volet d'un ensemble qui comprend le chapitre 9 et le chapitre 10. Le chapitre 10, c'est le bon pasteur. Comme on pouvait au moins l'épingler. Et c'est une grande vision centrale de cette deuxième partie qui va du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Alors, nous avons dans ce texte, je ne peux pas aller jusqu'au bout pour le moment, au moins deux phases. La première en entier, et la deuxième, je vous redonnerai tout ça en détail. Voilà. Donc vous avez au chapitre 9, pour ne prendre que le chapitre 9, on ne va pas prendre 10 aujourd'hui, vous avez une première phase, que nous allons tout de suite détailler, et une deuxième phase. La fin de la deuxième phase et la troisième, on le trouve dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10. Vous voyez, c'est la manière habituelle de procéder. Jean travaille en forme de tableau. Et souvent, ces tableaux sont parallèles avec le chapitre 7, puis le chapitre 8, puis les chapitres 9 et 10, puis le chapitre 11 et le chapitre 12. Nous allons revoir le même schéma que nous avons vu pour les six premiers chapitres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien, c'est évidemment un procès. On se rend bien compte que le monsieur que l'on invite
à venir témoigner, c'est un témoin au procès. Le procès qui est déjà engagé par les chapitres 7 et chapitre 8, et qui avait eu une première escarmouche au chapitre 5. Donc c'est un procès entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que être dans la lumière et qu'est-ce que c'est qu'être dans les ténèbres? Et cela va du verset 1er jusque pratiquement au verset 23. C'est bon. Verset 1 à 23. Donc j'ai marqué au tableau, première phase, procès, lumière contre ténèbres. Et le thème de ce procès, c'est qu'est-ce que manifester les œuvres de Dieu. Puisque c'est l'intention que Jésus a déterminée dès le départ. Et vous avez là plusieurs phases. Une première phase, c'est la rencontre avec Jésus et la guérison. On va mettre ça plus long que la première phase, sur le premier point, A, rencontre de Jésus et guérison. C'est le verset 1 à 7, je crois, vous avez vu. Il s'éloigna, se lava et vint regarder. C'est ça. Ensuite, vous avez la réaction. Et réaction des voisins et des parents. Et là, c'est du verset 8 au verset 17. Et puis, c'est, vous avez la réaction des parents. Donc, en fait, c'est verset 18 à 23. En fait, ceci est tout entier composé par un récit. Mais vous voyez bien que derrière ce récit, il y a un processus. Il y a une entrée de plus en plus profonde dans la foi. Alors, regardons la démarche même de ce récit. Passons tout auprès. Il vit un homme aveugle depuis son arrivée au monde. Un aveugle, vous voyez, c'est un chapitre avec, sur lequel j'ai souvent discuté avec le père Jean Botson. Parce qu'à la fin de sa vie, lui étant aveugle, il était vraiment attiré par ce chapitre de plus en plus. Et il préparait encore un article. Comme il ne pouvait plus écrire, évidemment, il le dictait, ce passage. Un petit morceau, puis reprenait, corrigeait. Alors il faut bien vous dire que il avait demandé qu'on lui mette sur cassette tout l'évangile de Saint Jean en grec. Et il avait écouté la longueur, Et il était vraiment rempli des choses merveilleuses sur la vision. Il me disait notamment, je pense que j'ai pas lu, il me disait, tu vois, il dit, la lumière et les ténèbres, on croit généralement que c'est à l'extérieur. Le jour et la nuit. Mais moi j'ai découvert qu'il fait toujours jour. Mais que je peux faire la nuit comme je veux. Je n'ai qu'à croire que je vois autrement que la manière dont je vois. C'est-à-dire, quand je regrette, mes yeux, je ne vois plus. Quand j'accepte ma situation, je vois. Tu ne crois pas que c'est ça que je veux dire, la ténèbre, parce qu'il y a toujours ce qui est... Il posait toujours des questions. Très souvent, il arrivait dans ma chambre, vous savez,
quand on était encore à Heidenhorn, à Brest, je rentrais du cours, et je trouvais quelqu'un qui était assis à mon bureau, en train de fumer. Alors, dès que j'arrivais, tu ne crois pas que... Je disais pas bonjour, tu ne crois pas que...
Écoute, il m'a semblé... Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Qu'est-ce que c'est que la ténèbre? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Et qu'est-ce que c'est qu'un procès entre la ténèbre et la lumière? Il n'y a pas de procès entre le jour et la nuit. Et pourtant, à travers tout ce chapitre, c'est un procès qui se déroule. C'est celui qui ne veut pas voir